Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Avec nous également Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Merci. Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous et bienvenue au Maroc.
Avec nous Élisée Mpatine depuis Boyuko au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec du basketball, la finale de la première édition de l'AfroCan, le championnat africain de basketball, réservé aux joueurs évoluant sur le continent, a été remporté un samedi par la République démocratique du Congo face au Kenya, 82-61 au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako, au Mali donc. Les Léopards locaux viennent de rentrer de Bamako et donc ils sont arrivés à Kinshasa ce soir. On écoute Charlie Bouzangou, le sélectionneur des Léopards.
Je suis d'abord surpris et très content de l'accueil. Je vois vraiment que ce que nous avons fait, c'est une très très bonne chose. Donnons le sourire au peuple congolais. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui on l'a fait. C'est vraiment quelque chose de très grand. On avait comme motivation, c'était de donner le sourire à ce peuple. Nous avons vu comment nous avons été déçus à un certain moment, mais nous avons eu cette envie qui nous a habité depuis Kinshasa, d'arriver à faire quelque chose de grand. Et je crois que c'était une assez bonne motivation. Eh bien, la coupe, elle est là. C'est réel. Nous avons amené la coupe à la maison.
Des propos chauds donc de Charlie Bouzangou au micro de Thierry Kambundi qui a fait l'effort de recueillir cela à partir de l'aéroport. Merci encore Thierry. Alors Thierry, c'est une première, hein, une belle première on va dire pour la RDC.
Une belle première pour la RDC, une belle première particulièrement pour les Léopards basketball, messieurs. Parce qu'il faut rappeler que dans l'histoire du basketball africain, les dames entre les années 80 et début 90 ont eu à remporter 3 titres de Coupe d'Afrique. Mais pour les hommes, c'était leur toute première compétition remportée au prix de dur labeur. Hein, le coach Charlie Bouzard vous l'a rappelé. Hein, c'était ce jeune joueur venu essentiellement du club de Mazembe. Meilleur club de la riche province du Katanga et de New Generation, le meilleur club de Kinshasa, champion de Kinshasa en titre d'ailleurs, se sont entraînés pendant 2 semaines ici à Kinshasa, quasiment abandonnés par le pouvoir public. Ils ont été pris en charge par une banque de la place qui accompagne souvent les activités ou les équipes nationales de basketball. Et bien voilà, ils sont arrivés là-bas, ils ont fait l'exploit face au Kenya tout d'abord, face au Nigeria, et puis ils ont poursuivi leur route jusqu'à éliminer l'Angola en demi-finale et à l'amener à le Kenya une nouvelle fois qu'ils ont rencontré en finale. C'est vraiment une très très belle aventure pour ces jeunes joueurs qui pour la plupart ont évolué au pays. Il est vrai qu'à un moment donné ils sont allés monnayer leur talent à l'extérieur, mais ils sont revenus au pays et ont été donc éligibles pour disputer le tournoi. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion pour les dirigeants congolais de prêter beaucoup plus d'attention au basketball qui a donné plus du Congo que toute autre discipline sportive. Le président de la République devrait le recevoir après le carnaval qu'il vient de réaliser. Là, ils sont en fait dans une salle de la place. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose et c'est surtout une interpellation pour les autorités du pays car ces jeunes gens ont été extraordinaires et ils ont été salués par l'ensemble du monde du football. Je me rappelle d'ailleurs du capitaine des Léopards, Youssouf Moulumbou, de Marcel Tisserand qui ont envoyé des messages d'encouragement pour dire que là où nous n'avons pas pu, vous avez pu le réaliser. Félicitations à vous. Moutombodi Kembe et tous les autres les ont félicités. On espère justement que pour le moment, à partir de ce moment, cela sera bonifié au pays et le basketball, qui est l'un des parents pauvres du sport en République démocratique du Congo, sera davantage plus encore.
Merci bien Thierry Kambundi. Alors Élisée, on va rappeler que cette équipe des Harambee Stars du Kenya a été quand même surprenante durant le tournoi, même si elle est tombée en finale face à la RDC.
Oui, bien évidemment, puisque même au niveau des professionnels, les professionnels, quand je dis professionnels, les grandes équipes.
Les habitués, vous dites.
Qu'on connaît bien la Tunisie, l'Égypte, l'Angola, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya n'existait pas du tout. C'est des équipes qui jouent simplement les matchs de poule et après, elles sont éliminées. Avec ces joueurs locaux, ce pays réalise une telle performance, c'est à sa mieux. Vous voyez, au niveau de la RDC, c'est déjà un très grand championnat, comme d'habitude. Thierry peut le témoigner avec de très grands clubs, hein, notamment le TP Mazembe, qui a une très grande équipe professionnelle déjà dans le championnat. Et face à cette équipe kenyane qui a commencé par mettre les moyens dans le sport, c'est pas seulement au niveau de basketball, c'est peut-être dans les autres disciplines, vous le savez, même en athlétisme, le Kenya fait partie des grandes nations dans le monde en matière d'athlétisme. Aujourd'hui, le Kenya a commencé par mettre les moyens, les véritables moyens dans le sport, et ça a payé aujourd'hui, puisque devant l'Algérie, l'Angola et même l'Égypte, l'Angola termine deuxième. C'est une très grande performance à saluer.
Donc dans le match pour la troisième place, vous le disiez, Élisée, disputé un plus tôt, l'Angola a dominé le Maroc 88 à 71. Alors Jules, en basket, Élisée le disait également, il y a des noms qui sont connus, hein, en Afrique comme l'Angola, la Tunisie, l'Égypte, voire la RDC, mais décrocher le premier tournoi quand même de l'Afro-CAN, bien que les Congolais soient de bons basketteurs, c'est peut-être un nivellement vers le haut du basket africain.
Oui, surtout une source d'espoir, parce que vous le voyez, les pays que nous avons cités là sont des pays qui comptent surtout sur des professionnels à l'extérieur. Mais ici, pour la prestation de la RDC, il faut savoir que c'est d'abord un vivier humain énorme. 80 millions d'habitants, des gens qui aiment beaucoup le sport. Et on se souvient que à un moment donné, on ne parlait pas de la boxe dans ce pays. Il a suffi qu'il y ait le combat du siècle là-bas. On a vu des champions de Congolais sortis de toutes parts. Mais c'est la même chose pour le basket. Il y a un vivier, comme ça a été le cas pour le Nigeria un peu avant eux. Il y a un vivier, on peut l'exploiter. Et il y a autre chose aussi, il suffit seulement qu'il y ait un peu plus d'organisation, du sponsoring, et on arrive quand même à avoir des équipes valables.
Nous parlons toujours de basket, hein, avec la 17e édition de la Basketball Without Borders qui s'est tenue cette année au Sénégal. Alors, Amdine, c'était le week-end écoulé et vous y étiez. En tout cas, on a vu les photos. Amdine, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien, Yacouba.
Et donc, je disais que la Basketball Without Borders, pour cette 17e édition, s'est tenue à Dakar, donc en fait au Sénégal, à, je ne sais pas comment vous dites là, dans la ville de Mbou. Voilà, j'y arrive. Et vous y étiez?
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est la 17e édition et c'est pour la première fois que le Sénégal l'accueille. Mais retenez que la crème du basket africain est présente au Sénégal, puisque tous les grands noms du basket sont au Sénégal. Comme vous le savez, le président de Toronto, qui vient quand même de remporter la NBA, c'est le Nigérian, hein, Masai, qui est présent. Il y a également Chris Bosh qui est là. Il y a les joueurs de la NBA, hein, comme les Boniface, donc les anciens joueurs de Sagana, la légende du basket Mutombo, ils sont tous là. Et ils sont entrés d'encadrer les 69 jeunes africains. Ils sont venus de 29 pays et ce sont des jeunes âgés de moins de 17 ans. Ils sont là pour 3 jours et ils sont en train de s'entraîner au niveau de Dakar Arena. Dakar Arena, c'est la nouvelle salle de basket qui doit accueillir même la pro basket. Donc c'est une grande première pour le Sénégal, puisque on avait l'habitude de l'organiser en Afrique du Sud, en Angola, mais le Sénégal l'a accueilli cette année. Ça se passe très bien, et c'est pour 3 jours, Yacouba.
Alors, Amdine, je reste avec vous. Il y a des compétitions existantes, hein, déjà comme l'Afro-Basket. Il y a la nouvelle, hein, Afro-CAN qui vient d'avoir lieu à Bamako. Il y a Basketball Africa League organisée par la NBA et qui débute en début janvier 2020. Alors, finalement, les basketteurs africains ont assez de tribunes pour s'exprimer.
Oui, c'est une bonne chose parce que il y avait quelque temps, il n'y avait que l'acrobasket chez les dames ou chez les messieurs, et des équipes comme le Sénégal, l'Angola ou le Nigeria qui avaient l'habitude quand même d'être au niveau du carré d'as, ils ne participaient pas aux éliminatoires, et c'est pour cela qu'on attendait chaque deux ans pour voir ces choses évoluer. Mais maintenant, les choses ont évolué dans le même, dans le bon sens, puisque d'abord pour l'Afro-Basket, toutes les équipes partent d'abord aux éliminatoires. Vous l'avez dit tantôt, il y a l'Afro-CAN. C'est dommage que le Sénégal n'a pas participé à l'Afro-CAN, mais c'est une bonne chose pour les joueurs locaux. C'est le pendant du charme au football. C'est une bonne chose. Maintenant, la NBA, en collaboration avec la FIBA Afrique, ont décidé d'organiser quand même un tournoi. C'est une sorte de champion au niveau africain. C'est une bonne chose aussi. Et ils ont mis les moyens. Donc, il y a maintenant beaucoup de compétitions. Et les compétitions permettent aux joueurs qui sont dans le continent de se développer, hormis l'afro-basket masculin et l'afro-basket dame. Et je tiens aussi à féliciter cette équipe de la RDC qui vient de remporter la permission de l'afro-CAN, puisque moi, je connais la RDC. C'est un pays de basket. C'est un pays qui a l'habitude de gagner chez les dames avec les longues les ligues. C'est un pays qui a toujours créé des problèmes au niveau du basket féminin. C'est bien que au niveau aussi masculin, qui se développe un peu, c'est une bonne chose, Yacouba.
Cette discipline, hein, car le basketball est bien pratiqué dans certains pays africains, vous l'avez dit. On a vu récemment les Maliens de moins de 19 ans qui ont atteint la finale de leur catégorie, hein, dans le mondial, bien sûr, battu par les États-Unis. C'est une discipline qui souffre cependant, hein, de beaucoup du manque d'infrastructures en Afrique. Alors, Amine, est-ce que les autorités ne gagneraient pas à mettre aussi les moyens dans le basketball comme ils le font au football?
Le mettre aussi sur d'autres disciplines, parce que le basket n'est peut-être pas le parent pauvre, mais c'est une discipline où le joueur ou le sportif africain possède des aptitudes athlétiques, détente, puissance, vitesse, qui pourrait faire de cette discipline un des fers de lance du continent africain. La remarque se fait puisque l'Afrique n'a jamais réussi grand-chose dans les grandes compétitions internationales, peut-être passé le premier tour du mondial. Le mondial qui aura lieu cette année en Chine, dans quelques semaines, à 32 équipes, avec quelques sélections africaines, le Sénégal, la Tunisie, l'Angola, des sélections réputées qui possèdent quelques joueurs labellisés NBA, mais au niveau intérieur, il y a très peu d'initiatives, très peu d'infrastructures. Le talent brut existe, preuve en est les réalisations des juniors maliens lors du dernier championnat du monde de leur catégorie. Mais évidemment, l'État semble obnubilé par le football, opium des peuples, entre guillemets, le football qui est budgétivore. Et visiblement, aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on se tourne vers d'autres disciplines, collectives ou individuelles, qui pourraient faire briller l'Afrique, notamment à un an des Jeux Olympiques de Tokyo, à un an de la compétition phare du sport mondial.
Merci bien, Amine. Vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. L'émission revient tout de suite. Parlons à présent de football. C'est demain que le tribunal arbitral du sport va rendre sa décision sur la finale retour à rejouer entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis en Ligue africaine des champions. Amine, je me retourne encore vers vous. On va rappeler, hein, les demandes des deux parties.
Les deux parties souhaitent remporter la coupe et exigent de remporter la coupe. On va rappeler aussi qu'il y a eu la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer cette finale sur terrain neutre, sur manche unique. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons deux requêtes diamétralement opposées. Celle de l'Espérance de Tunis qui souhaite faire annuler cette décision, garder la Ligue des Champions et les récompenses, y compris les récompenses financières qui ont lieu après cette compétition. Et puis celle du Wydad de Casablanca qui a surenchéri et qui souhaiterait remporter le trophée sur tapis vert. Du côté tunisien, il y a l'argumentaire de la finale qui s'est arrêtée à la 60e minute de jeu. L'argumentaire que les joueurs du Wydad de Casablanca et leur président auraient refusé de continuer la partie. Et la requête marocaine concernant l'absence de la VAR qui avait été stipulée dans le règlement de la compétition, notamment pour cette finale, qui avait été exigée lors de la réunion technique. Il y avait eu ces déclarations. Et puis, le rapport du commissaire du match, les témoignages du président de la Confédération africaine de football concernant les conditions de sécurité. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des audiences hier, aujourd'hui, tôt le matin à Lausanne, au siège du tribunal arbitral du sport. Il y a eu donc l'audition des deux parties. Il y a eu même des visioconférences des deux capitaines d'équipe. Et on attend d'une heure à l'autre le verdict du tribunal arbitral du sport qui avait communiqué au début du mois qu'il avait fusionné les deux demandes dans une seule requête, qu'il y aura débat contradictoire en présence des avocats des deux parties et puis surtout que la sentence devrait avoir lieu au plus tard le 30 juillet. Donc on attend d'un instant à l'autre cette décision qui va faire jurisprudence, quel que soit le verdict, que le tribunal arbitral du sport puisse appuyer la décision de la CAF de faire jouer la finale ou qu'il puisse octroyer le trophée, que ce soit la partie tunisienne ou la partie marocaine. Maintenant, le problème qui se posera après cette jurisprudence RADES concernera toute équipe africaine ou toute compétition africaine organisée sous l'égide de la CAF, s'il y a une quelconque erreur concernant le règlement ou l'application du règlement, les parties prenantes iront directement à Lausanne. Il va falloir maintenant que la Confédération africaine de football se mette, je dirais, à jour et qu'elle puisse rapidement trouver une parade juridique pour empêcher que ces cas puissent se multiplier au niveau du tribunal arbitral du sport, de façon à ce que, au niveau africain, on puisse régler ses affaires et qu'on ne puisse pas recourir systématiquement à la juridiction suisse.
Alors, Jules, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il, justement, il ne faut pas craindre que cette décision, peu importe ce qui va décider le tribunal arbitral du sport, crée un précédent?
Oui, mais bien sûr, ça c'est depuis que l'incident a eu lieu, c'est ça notre crainte et elle est fondée. Parce qu'il faudra bien trancher et là, à ce niveau, il y aura un perdant et il y aura un gagnant. Donc, vous avez raison de le souligner et on attend le jugement, mais le jugement forcément ne sera pas satisfaisant pour tous.
Autre sujet toujours en football, c'est ce jeudi 1er août que commence la mission de Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, nommée déléguée générale à la CAF pour une période de 6 mois renouvelable afin de faire un audit de la gestion de l'instance africaine de football. Alors Thierry, le président de la CAF reste en place et va devoir co-gérer en quelque sorte avec Madame Samoura.
Absolument, avec tout ce qui s'est passé depuis l'aéroport à la voie un peu partie.
Ça se comprend. Donc,
le président de la CAF va devoir se gérer, conséquence de tout ce qui s'est passé depuis qu'il est au pouvoir. Je pense que ça vaut quand même la peine également de revoir un certain nombre de choses dans la gestion du football. Issa Hayatou n'a pas été épargné par des scandales. Et on l'a évoqué également dès le début de Ahmed Ahmad. Bref, je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui ou tout ce qui devrait être fait, je le trouve assez logique quand même vu l'évolution actuelle de la situation. Excusez-moi.
Thierry, on va essayer de vous reprendre un peu plus tard. On espère que vous allez juste peut-être prendre quelques gorgées d'eau et puis voilà, retrouver votre voix. Il y a eu de récents réaménagements à la CAF, notamment au niveau de la vice-présidence. Le Congolais Constant Omari a été nommé premier vice-président, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Legia, deuxième vice-président, le Sud-Africain Danny Jordan, troisième vice-président. Le Congolais Constant Omari a été également porté à la tête de la commission d'organisation des compétitions interclubs, en remplacement du Tunisien Tarek Bouchamaoui. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est désormais le président de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Élisée, on se demande bien pourquoi tous ces changements, alors que la CAF commence une sorte de tutorat dans quelques jours.
Yacouba, il faut se rappeler de cette petite crise qui mène la Confédération africaine de football, qui mène la Confédération africaine de football, même au sein du comité, il n'y a pas unanimité. On se rappelle le 4 juin dernier à Paris, le président Ahmad Ahmad, il était pris à une administration de la CAF prise En otage, il n'y avait pas quelques individus. Il faisait, entre autres, référence à l'ancien secrétaire général de l'institution, l'égyptien Amframi, limogé Hamas, dernier, mais ce dernier aurait notamment transmis un dossier à charge contre Amman à la justice interne de la FIFA, le comité d'éthique. Donc, il y en a qui supportent certains dirigeants qui étaient limogés aujourd'hui. Hamas a dû installer ces hommes, ces hommes qui sont proches de lui, donc il y aura plus de confiance. Vous avez vu Didier Drogba et Samuel Eto'o, ils sont proches du monsieur dans le corps conseil. Il faudra plus de conseils. Au Mali, on fait le rôle qu'il a joué dans l'élection de Ahmad Ahmad aujourd'hui. Il mérite largement ce poste de premier vice-président. Donc, comme d'autres aussi, Ahmad a voulu jouer un peu à la confiance avec ces hommes-là. Donc, c'est pour ça. Aujourd'hui, on sait que la CAF était vraiment bouleversée par beaucoup de scandales. Aujourd'hui, c'est à base que, en tout cas, mettre une autre organisation au sein de ce comité, ça va peut-être sauver le football africain.
Alors, Amdine, d'aucuns disent qu'en réalité, Ahmad Ahmad cède son fauteuil de président de l'institution au profit de celui de la commission d'organisation de la CAN pour se trouver un rôle avec la présence désormais de Fatma Samoura. Est-ce votre avis?
Oui, c'est mon avis, parce que Fatma Samoura, en fait, il faut appeler le chat par son nom. La CAF est désormais mise sous tutelle de la FIFA. Maintenant, la CAF est gérée par un comité de normalisation. Il faut l'appeler comme ça. C'est un comité de normalisation. Fatma Samoura, elle est venue pour normaliser la CAF. C'est ça la triste réalité. D'ailleurs, sa mission ne sera pas simple parce qu'on a vu quand même la sortie d'un des membres du comité exécutif, Moussa Mitouli, pour ne pas le nommer, qui Moussa est Bélitivé. Ancien président quand même. Non, c'est parce que la CAF ne fonctionne pas bien que Fatma Samoura est venue pour normaliser. Maintenant, les autres membres de la CAF qui sont là-bas, pour moi, ils devaient soit démissionner, soit rester et ne rien dire. On dit même que pour le moment, on va saisir le TAS pour essayer de remettre les choses à leur place. Ça prouve qu'il y a un réel problème au niveau de la CAF. Et ça, c'est depuis l'arrivée quand même de Ahmad Ahmad qui essaye quand même de régler des comptes à des pros et à tout. Donc on ne sait plus à quel point se vouer au niveau de la CAF. Il y a un réel problème. Maintenant, comme disent les Anglais, wait and see, attendons de voir ce que Fatma Samoura va faire.
La FIFA a suspendu pour une durée de 10 ans Moussa Bélitivé, ex-président de la Fédération libérienne et actuel membre du comité exécutif de la FIFA pour détournement de fonds. Alors, Amine, on sait que entre Bélitivé et Ahmad Ahmad, ça n'allait pas trop. Est-ce une épine de moins chez Ahmad?
Une épine de moins comme celle de l'ex-premier vice-président, le Nigérian Penny, qui a également des soucis avec la justice de son pays. Donc on a un éclaircissement au niveau du comité exécutif avec une répartition différente des tâches. Et puis il va falloir quand même se pencher sur la mission de Fatma Samoura, qui est prorogable, d'une durée de 6 mois, qui est prorogable une fois ou deux fois. Aujourd'hui, on rappelle qu'il y a 3 axiomes. Le premier, c'est la gestion des process administratif et financier de la CAF. La deuxième, elle concerne la gestion des compétitions de la CAF. Et puis la troisième, c'est le développement du football africain. Donc ce sont aujourd'hui les 3 missions de cette Fatma Samoura qui va devoir remettre la machine administrative et financière de la CAF sur de bons rails, avec, après les problèmes avec l'ex-secrétaire général égyptien Amar Fahmy, avec le directeur financier de la Confédération africaine de football, Chéri, l'ex-directeur financier qui a également été remercié. Aujourd'hui, on a une compétition africaine qui va démarrer dans quelques semaines avec les tours préliminaires de la Champions League et de la Coupe de la CAF. On est sur une première cette saison avec les compétitions qui démarrent à partir d'août et qui se terminent au mois de mai. Et puis, il y a tous les projets de développement qui sont supervisés par la FIFA et qui aujourd'hui doivent connaître un coup d'accélérateur avec l'arrivée de Fatma Samoura. On verra maintenant si elle arrivera à mettre de l'ordre dans les affaires de la CAF avant le 31 janvier, ou il faudra à nouveau prolonger le mandat de Fatma Samoura. Et là, on ne parlera plus de mise sous tutelle de la CAF, mais d'occupation totale de la CAF.
Alors Thierry, très rapidement, en 30 secondes, vous qui nous revenez après quelques gorgées d'eau, dites-nous, est-ce que vous êtes d'avis que c'est une mise sous tutelle de la CAF?
Je ne suis pas
pas du tout d'avis hein, que la CAF soit mise sous tutelle, parce que nous sommes Africains, nous devons nous assumer, nous devons assumer notre gestion du football. Je suis plutôt déçu des dirigeants du football africain de manière générale. Tous ces scandales, tous ces problèmes évoqués, ça et là, on a parlé de Constant Omari qui a été élevé au rang des premiers vice-présidents de la CAF, qui est contesté plus que jamais dans son pays. Et, d'ailleurs, des manifestations seront organisées contre lui au début du mois d'août. Bref, ça ne fait pas honneur à l'Afrique.
Merci bien Thierry Kamboundi. Sporama s'achève ici. Et donc, à la réalisation, c'était Michel Joseph. À la console, c'est Wojtek Zorniak. J'arrive à prononcer son nom aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.